Lost.
J'ai pas vu, mais je sais.
Faut des gens qui aient vécu les années 90.
Eh oui, il faut des vieux. Bon, place aux vieux maintenant.
Ah,
à l'époque où les séries se regardaient à la télé.
C'est vrai qu'on a une jeunette parmi nous. Je
ouais, qu'est-ce qu'elle fait là?
Elle a mon âge. Hein.
À la vue d'Alas.
Vous avez, vous avez la même âge que les deux. Elle fait plus jeune que toi.
Laurent, il y a quelqu'un qui te remercie sur le chat pour ton intervention.
Ah bah, de rien. Je sais pas qui c'est, mais merci.
Le micro, Léo, le micro, Léo.
Ah oui, pardon.
Vas-y, tu, non, tu peux prendre même le...
Je prends comme ça.
Non ? Bon, très bien. Bon, nous sommes en 2017. L'âge d'or des séries est désormais un peu rouillé. Si tant est que l'or rouille. Comprenez que la proportion de bonnes séries parmi les 400 scriptées est quand même mince. Alors, je vous propose de faire un voyage dans le temps. À l'époque de la trilogie du samedi, de KD2A. Bref, un retour vers nos chères années 90. L'époque où nous attendions 9 mois pour avoir la nouvelle saison d'X-Files. Nous avions notre belle famille en boucle, sans savoir vraiment quelle saison était diffusée. Où Buffy passait en VF et qu'elle était quand même une bonne série. Une autre époque, quoi. Pensez-vous, nous vivons une époque où Milo Ventimiglia est devenu un bon acteur car il joue dans une bonne série. Alors, quid des années 90? Avons-nous eu droit à des séries qui peuvent rivaliser avec les séries d'aujourd'hui? Y a-t-il un fossé entre les générations? Alors, si à chaque génération, il y a une élue, est-ce qu'à chaque décennie, il y a des séries qui sortent du lot? Comment une génération entière a connu des séries de piètre qualité, pour la plupart, pour finir par en adorer de bien meilleures? Comment juger de notre passé de sériephile par rapport à celui d'aujourd'hui exigeant? Alors, première question, quand on vous dit années 90, vous pensez à quoi niveau série tout de suite, Romain?
Bah, X-Files, forcément, parce que c'est là...
Qu'on a tous vu dans la trilogie du samedi, évidemment. Hein.
Ils sont au troll tout seuls.
Mais j'ai envie de dire, Loïs et Clark.
Sylvain qui... Oh non, pitié, pas Loïs et Clark.
Loïs et Clark, les nouvelles aventures de Superman.
Non, mais attendez, vous pensez pas à la première qui vient à l'esprit, Hélène et les garçons, quoi.
Donc, Loïs et Clark.
Et pour être libre,
X-Files, Loïs et Clark, les sitcoms, comme tu disais, Notre belle famille ou Une onde d'enfer, ou ce genre de choses qui sautent tout le temps, tout de suite au cerveau, quoi.
Alex.
Moi, j'ai envie de dire Quantum Leap et Maggie.
Ah, Quantum Leap.
Parce que moi, je suis une vieille de la vieille, je commence les années 90 tôt, quoi.
Bien. Non, mais...
Alors, personne pense à la VHS, par exemple?
C'est pas une série.
C'est une série. Bah.
Vous pensez à... Ah oui, c'est vrai. Ah, mais niveau série, voilà.
On essaye de répondre à ta question.
Mais en fait, je crois qu'on est...
Il y a un élément, il y a des séries qu'on marque.
Quel est votre meilleur acteur? This Is Us.
Voilà. Il y a des séries qu'on marque.
Je pense au yo-yo, sinon.
Parce qu'il y a eu une rupture. C'est-à-dire X-Files a marqué parce que ça a marqué une rupture avec... Il faut imaginer que nous, dans les années 90, on avait parallèlement...
Friends, non?
Friends, mais quand on avait une dizaine d'années, donc dans les années... Parfois, moi, pour les années 4. Fin des années 80.
T'avais déjà 30 ans, quoi, les années 90.
Putain, dégage-toi, c'est vieux, merci. Ils sont méchants avec moi.
Les blagues faciles.
Non, mais ça veut dire.
T'inquiète, on les tapera avec notre canne après.
Non, mais ça veut dire qu'on a. Nous, on avait une vision parce que la France avait à l'époque, effectivement, un certain nombre de retard. On a vu les séries des années 70 dans les années 80 en France. Donc, pensez qu'on avait Starsky et Hutch, Matt Houston, Riptide,
Sheriff
et moi peur. On avait tout ça. Et que tout d'un coup, quand quelque part, en point de vue diffusion, l'écart se réduit entre les États-Unis et la France, effectivement, quand t'arrives X-Files, quand t'as vu 14 épisodes de Starsky Hutch et que tu vois X-Files, tu dis, il s'est passé un truc. Il y a un truc qui s'est passé. Donc il y a une vraie rupture dans l'histoire des séries. Et nous, on a eu la chance de voir cette rupture tout d'un coup. Alors après, pourquoi on s'en souvient certaines, même quand elles sont mauvaises, c'est que surtout qu'on avait moins et qu'on avait peu de canaux de diffusion. Donc on était beaucoup à être devant M6 à 20h parce qu'il y avait Une onde d'enfer, Notre belle famille, etc. On était beaucoup devant la trilogie du samedi, on était beaucoup devant les samedis fantastiques. Donc, du coup, il y avait une masse où on était beaucoup plus touchés tous par la même série. Oui, et forcément, ça crée des trucs. Moi, je n'ai pas regardé Charm, parce que ça ne m'intéressait pas. Mais je sais, je connais, j'ai aucun souvenir d'épisode parce que j'ai dû regarder deux trucs, je ne comprenais rien. Ils apparaissaient, ils disparaissaient.
Tu rates pas grand-chose.
Dans des êtres de lumière.
Dans des êtres de lumière, je ne comprenais pas. Mais du coup, on était facilement touchés par tout ça.
Il y a sur le chat, on nous dit deux séries que vous n'avez pas citées, ou à moins que je me sois planté, Roswell. Et oui. Twin Peaks, surtout personne n'a cité
Twin Peaks, c'est vrai, mais c'est un peu plus élite, j'ai envie de dire.
En fait, vu que ça durait tellement peu longtemps que c'est 99-90.
Voilà. 90-91.
On était très jeunes.
Et Roswell, 98.
C'était 90 aussi.
Kingdom.
Ouais. Je sais
plus. Non, en tout cas, c'est ce sujet. Alors, on va citer Roswell et Twin Peaks en même temps.
Dawson, en effet, sur le chat.
Dawson, oui.
C'est fin 90.
Rappelez-vous que Dawson, je dis à chaque fois, c'est la dernière série pour ados où ils n'ont pas de téléphone portable. Si vous regardez tout Dawson, il n'y en a aucun qui a des téléphones portables.
Mais pareil, on peut parler de Seinfeld, mais on ne l'a pas dit parce qu'en France, ce n'est pas du tout connu. Ça n'a jamais été dit.
Donc, on a eu
des
Est-ce que dans les années 90, tu regardais cette série?
Non, mais c'est non, mais je veux dire, c'est une série qui a marqué les années 90.
En tout cas, qui m'a, personnellement, par exemple,
pas
Friends.
Pas qui t'a marqué, mais qui a marqué en tout cas.
Friends, moi, je l'ai regardé dans les années 2000. Je ne l'ai pas vu quand ça a commencé. Donc, pour moi, elle n'a pas marqué mes années 90.
Non, mais après, nos années 90, oui, il y a les trucs qu'on regardait.
De ce qu'on voyait, de ce qui arrivait. Finalement, on avait encore du retard, mais maintenant il y avait un effet de médias. Alors, c'est aussi l'époque où les médias ont commencé à s'intéresser aux séries et à commencer à en parler un peu différemment. On est sorti de l'occupationnel du samedi après-midi.
Bah, il y a eu Alain Carazé, par exemple, qui a fait ça, qui a parlé de plus de séries.
Alors, nous n'avions pas trop le choix niveau séries. Entre celles qui étaient en boucle dans la grille, MacGyver, Agence Touriste, Walker, Texas Ranger, Highlander, Demain à la Une, et dont on ne se savait jamais vraiment quelle saison était en cours.
Oh, c'est clair.
Et nous avions des cases, Lois et Clark, Dr. Quinn le mardi, X-Files, Le Caméléon, Ally McBeal, Dawson, Hercule, Le Prince de Bel-Air, Une Nounou d'Enfer, Code Lisa, c'est des rendez-vous.
Moi, je tiens à parler de cas des deux ans, parce que...
Toutes ces séries étaient liées à un rendez-vous. N'est-ce pas finalement ça qui a fait que nous étions accros plus que la qualité elle-même de la série? Est-ce que l'envie de revenir n'était pas plus forte avant que maintenant?
Il y avait moins de choix.
Est-ce qu'on s'est dit, il faut que je rentre vite, il y a
pas de moins de choix. Oui, il y avait un rendez-vous qui s'était installé, mais on accrochait à ce qu'on voyait aussi. Si on n'accrochait pas, on ne regardait pas.
Ouais,
mais il y avait un contexte qui faisait
partie. C'était lié à une habitude de vie. Quoi.
Notre belle famille, je regardais quand j'étais au dîner avec mes parents ou quoi. Donc évidemment qu'il y a un rendez-vous qui était mis en place pour certains trucs, genre par exemple même pour Dragon Ball Z ou quoi, les mercredis matins avant ou les mercredis après-midi. Mais il y a aussi la qualité du truc qui fait que tu continues de regarder. Tu rigoles devant Notre Belle Famille, donc tu vas continuer à regarder au-delà du contexte qui s'est installé.
Alors moi, il y avait vraiment des séries où c'était le rendez-vous, c'est-à-dire le rendez-vous, je sais que c'est à cette heure-là et peut-être que j'y serai, peut-être que j'y serai pas. Et il y avait vraiment le côté, enfin, du point de vue, il y avait le côté... celle que je peux pas rater, je n'irai pas déjeuner avec mes parents tant que l'épisode ne sera pas fini, parce qu'il n'est pas question que je m'arrête au milieu, et où la VHS est prête pour un enregistrement. Et du coup, voilà, mine de rien, le fait qu'on avait moins de choses, et voilà, d'abord on était adolescents, donc on avait potentiellement moins le droit aussi de regarder des trucs. Mais du coup, certaines étaient des séries qu'on regardait, Chérie, fais-moi peur, enfin ce genre de truc, qu'est-ce que tu veux? Tu tombes dessus, à l'époque, tu tombes dessus, tu regardes parce que tu zappes sur les différentes chaînes.
Oui. Voilà. Comme Walker Texas Ranger, par exemple.
Mais par contre, il y a celles qui nous tenaient à cœur.
Après, c'était un rendez-vous télé, et actuellement, j'ai l'impression d'avoir encore des rendez-vous. J'ai des rendez-vous avec mes séries, elles sont pas télé. C'est juste que maintenant on voit les séries différemment. Moi à l'époque, en effet, comme tu dis, Tom, j'avais pas du tout cette notion de saison. Voilà, je savais juste ça passait à telle heure sur telle chaîne, donc je regardais à ce moment-là. Maintenant j'ai la notion de saison, donc je sais que tel jour il va y avoir telle série qui va reprendre. Alors après, ça peut être un rendez-vous comme Netflix avec un binge, comme on parlait tout à l'heure. Soit ça peut être un rendez-vous, toutes les semaines, j'ai mon épisode qui va être diffusé aux États-Unis.
Mais tu n'es pas obligé de le regarder au même moment à chaque fois.
Obligé, mais généralement, il y a des trucs qu'on a envie de
le
regarder.
Tu peux le louper et tu peux le regarder deux jours plus tard.
Alors je vais prendre un exemple des séries comme par exemple Game of Thrones, la série que tout le monde veut voir dès que ça sort parce que tu n'as pas envie d'être spoilé. Et ça reste un rendez-vous.
Léo.
Léo. On a sur le chat Stéphane qui s'excite sur Code Quantum.
Parce mais t'as raison Stéphane, on est d'accord, tu sais bien qu'on s'aime sur Code Quantum.
Ils doivent écrire la saison 6.
Il y a Paul Gornek qui cite beaucoup, L'Homme de Nulle Part, Babylon 5, ER, Friends, Buffy, X-Files, Deuce, Quantum Leap, Demain à la Une. Attends, j'arrive aux gens. Stéphane cite aussi, c'est vrai qu'il n'a pas été cité, c'est V. Et il dit que la naissance d'Elisabeth l'a traumatisé.
Moi, c'était le mangeage de souris. C'était un enfer. J'ai cauchemardé de ces trucs-là.
On a Julien qui dit que Neve Campbell et Jennifer Love Hewitt dans La Vie à 5.
Tout à fait.
Beaucoup de grands souvenirs.
Ouais, on voit l'image des souvenirs. On a bien vu là.
On cite 7 à la maison. Et puis il y a Serifan qui dit Charmed, c'est la première série que j'ai suivie. Je la regarde depuis que j'ai 4 ans. J'ai enregistré tous les épisodes tous les jours sur des cassettes VHS. Et je suis toujours aussi fan aujourd'hui.
Et on a envie d'avoir une pensée pour lui, le pauvre.
Merci, Serifan, tu es un grand.
C'est vrai que Quantum, ça a été aussi des séries fortes qui commençaient à être diffusées quand même. C'est M6 qui diffusait Quantum dans mes souvenirs. Et comme X-Files, c'est quand même des séries où, grâce à la diffusion d'M6, on commençait à comprendre les saisons petit à petit. Parce qu'on en revient, même d'ailleurs au débat qu'on avait juste avant, les séries des années 80 étaient beaucoup plus des formules à chaud où on se moquait des saisons complètement. Par contre, on a commencé aussi dans les années 90 à avoir l'histoire de saison. Et je ferai juste un petit aparté aussi sur des séries pour ados. Parce que moi, je suis tombé aussi là-dessus dans les années 90, tout ce qui était Parker Lewis, tout ce qui était des choses comme ça.
Arthur Lecoeur Avis.
Et c'était un public nouveau. Il n'y avait pas de série comme ça dans les années 80, beaucoup moins. Il n'y avait pas ce côté un peu très... Voilà, Beverly Hills, moi je m'en foutais, mais je sais que ça a
marqué. Beverly Hills, j'y ai pas pensé.
Ben voilà, ça a marqué l'époque, et ça veut dire que les années 90 ont été aussi, je pense, des années où on s'est ouvert à un nouveau public, ça veut dire que tout d'un coup, les séries sont devenues... Il y a eu des séries pour ados, des séries plus pour adultes, et des choses comme ça.
Mais il y a eu un tournant dans la façon de regarder les séries. Non, pas dans la façon de regarder, dans la façon...
C'est la honte.
Il y a chute de
Il y a eu un tournant dans la façon de faire les séries, par exemple avec Hill Street Blues, par exemple au début des années 90, non?
Enfin là, on parle de la culture française.
Mais voilà, par France 3, Hill Street Blues.
Je veux dire que ça a vraiment changé les choses dans les années 90.
Capitaine Furio.
Par France 3.
Capitaine Furio.
Hill Street Blues était diffusé.
Capitaine Furio.
Oui,
en français.
Oui, Capitaine Furio, très tard.
Alors, parmi les séries qu'on a citées et qui ont marqué le public, lesquelles sont vraiment réussies et qui passent facilement l'épreuve du temps? Hors Buffy, parce qu'on en a déjà parlé plein de fois.
Évidemment, X-Files.
Moi, c'est marrant parce que justement, j'allais aborder un point qui est un peu adjacent à ça. C'est une des choses qui est étrange quand on a vécu, quand on a aimé les séries dans les années 90. C'est le côté, alors du coup, du haut de notre adolescence, notre niveau d'anglais de l'époque n'était pas forcément génial. En plus, on n'avait pas accès aux séries dans les langues originales. Et du coup, pour moi, je me demande quelle est la différence pour des adolescents qui soit regardent en sous-titré parce qu'ils sont capables d'attendre trois jours. Parce qu'ils sont capables d'attendre trois jours que Game of Thrones soit sous-titré par quelqu'un. Tu vois, quelle est l'avancée de ce truc-là et à quel point ça influence les adolescents aujourd'hui de vouloir regarder des séries suffisamment vite pour que leur niveau d'anglais monte en flèche rapidement. Moi, j'ai redécouvert Code Quantum, qui pour moi était évidemment le haut bravo et qui est devenu le haut boy des années plus tard, parce que je l'ai entièrement revu en anglais. Parce que Buffy, c'était extrêmement mal doublé. Mais il y avait carrément des changements de texte, de blagues, de tout. Quoi.
Alors que je trouve que Quantum n'avait pas ce problème-là. Et le doublage de Quantum était vraiment réussi, avec un acteur français, Guy Chapelier, qui faisait la voix de Quantum, qui était vraiment, ou de Sam, qui était vraiment intéressante. Donc il y avait un travail. Et effectivement, il y avait un travail, je pense, plus poussé. Donc les VF étaient souvent meilleures. Aujourd'hui, ils ne s'embêtent pas parce que c'est quelque part un peu moins vu. Donc je pense que les VF sont un peu moins bonnes.
Il y a quelqu'un qui demande sur le chat, parce qu'il dit qu'il y avait une série avec un délinquant qui était transformé en chien jusqu'à la réalisation d'un certain nombre de ses bonnes actions.
C'est des séries pour ados. Ça, c'est 99 vies, je crois. Les 99 vies de machin, de l'ado. Il y a eu pléthore. Il y a toujours beaucoup de séries pour ados aujourd'hui. Oui, mais aujourd'hui, elles sont tenues par Disney principalement, qui est le premier fournisseur officiel de séries pour ados, pour même jeunes ados. Et nous, à l'époque, ça arrivait aussi.
Oui, après, nous, il y avait Cousin Skeeter, ce genre de truc. Il y avait
Excusez-moi juste, parce que là, on recite encore, mais répondez à la question, lesquels sont vraiment réussis?
X-Files, Buffy,
non, lesquels, t'as Friends. Dit lesquels ont pas mal vieilli?
Parce que Quantum Leap est réussi.
Et qui passe l'épreuve du temps.
Alors, ce qui est compliqué, je fais une aparté, après je vous... En ce moment, Netflix met à disposition la Star Trek, la série originale, qui date des années 60, et Star Trek The Next Generation, qui date des années 90. Et finalement, on a un regard plus facile, on regarde plus facilement la série des années 60, parce que tout d'un coup, on se met vraiment dans un truc de « Ok, c'est les années 60, on comprend le carton-pâte, le machin. » Sur les années 90, on commence à avoir des effets plus intéressants, mais on commence seulement. Donc, elles vieillissent un peu mal et parfois, il faut encore 10 ans de plus pour regarder une série des années 90.
De très, très bonnes séries qui restent toujours actuellement de très bonnes séries. Quand tu re-regardes les premières saisons, je pense en l'occurrence à Friends, à Buffy, je pense, à Dawson, visuellement, ça a mal vieilli. Et
Les premières saisons, là.
Oui, est-ce que j'ai les premières saisons, les
premières saisons. Mais est-ce qu'on doit penser seulement visuellement?
Je parle visuellement.
Parce que visuellement, la première saison de Buffy, elle a mal vieilli. Et encore, je suis pas d'accord pour certains épisodes. Certains épisodes sont vraiment très bons. Et aujourd'hui,
tu sens que c'est typé 90. Après.
Mais c'est normal.
Mais oui, complètement.
Mais pour moi, ça passe l'épreuve du temps tant que tu peux encore la regarder, qu'il y a encore des choses à dire dessus.
Il y a des effets spéciaux qui sont
encore. Encore un débat aujourd'hui à Sériemania dans une dizaine de jours sur Buffy. Voilà.
Mais c'est des séries cultes.
Parce qu'elles passent l'épreuve.
Est-ce que le caméléon, par exemple, enfin, je ne sais pas si quelqu'un autour de la table l'a revu ces derniers temps.
Pas récemment, moi, c'est vrai. Et je ne sais pas comment je le reverrai.
Faudrait peut-être que ça arrive sur Netflix pour redécouvrir ça.
Moi, une des questions que je me pose, c'est au niveau narration, la différence de rythme qu'il peut y avoir.
Oui.
J'ai l'impression que, tu vois, on parle de revoir le caméléon et le premier truc que je me dis, c'est que
Est-ce qu'on va pas
ça serait un truc ben, parce que au niveau du feuilletonnant ça avance beaucoup moins vite
mais
au
parce
niveau
que du, 24 du, est passé du... par là aussi
mais bien sûr et du coup moi j'aime beaucoup tout ce qui est épisode bouclé même actuellement enfin je veux dire voilà j'ai pas du tout de problème avec ça mais c'est vrai que du coup la, le coût des arches sur les saisons c'était très très ténu à l'époque
mais on peut même aller plus loin excuse-moi on peut même aller plus loin en parlant de Mission Impossible par exemple qui est une bonne série mais on se fait chier enfin c'est hyper lent en fait dans la conception des plans ou des trucs comme ça c'est hyper lent pourtant ça reste voilà c'est ça non, mais... et mais ça reste... le truc c'est que ça a évolué le rythme a vraiment augmenté mais donc du coup
de manière de la même manière la mythologie X-Files qui était quand même très empirique ça veut dire qu'ils faisaient ça un peu au fur et à mesure. Aujourd'hui, ça passerait pas du tout. C'est-à-dire que le mec, il se ferait dézinguer parce qu'on lui dirait, il sait pas où il va. Alors évidemment, on conçoit les séries différemment. Donc, je pense pas qu'aujourd'hui, à revoir, ça va te faire bizarre de se dire que là, il met ça, puis après, il met ça, et puis finalement, quand tu essaies de connecter les trucs, c'est pas complètement clair. Donc, après, forcément, quand on regarde une série des années 90, même s'il y en a qui supportent très bien le vieillissement, bah, on sait que c'est des séries des années 90, quoi, comme pour les années 60.
De la même façon, au niveau narratif, il y avait quand même, enfin, caractérisation de personnage, il y avait quand même cette espèce d'étendard des années 90 qui était le héros chevalier blanc, qui était le mec bien, le MacGyver, le mec qui.
Sam Beckett.
Le Sam Beckett. Mais Sam Beckett, c'est pas pareil parce que je l'aime. Enfin, bon.
Le riche blanc hétéro, c'est ça ?
Je blague, mais il y a ce côté-là qui est. Et c'est pour ça que. Enfin bon, moi, j'ai pas regardé le nouveau MacGyver, mis à part le pilote, mais dans lequel, devant lequel je me suis endormie. Voilà. Mais c'est vrai que c'est il y a quelque chose là qui a été perdu de ce point de vue-là. Et c'est marrant parce que je trouve qu'en décortiquant qu'est-ce qui était à la mode à l'époque des années 90 et qu'est-ce qui l'est plus du tout, moi, ce que je me demande principalement, c'est qu'est-ce qui va revenir dans les années... Enfin, par exemple, pour le Chevalier Blanc, je pense que c'est un truc qui reviendra a priori pas
bah,
vraiment.
Ça revient, parce que on a refait MacGyver, par
oui,
exemple.
Mais, oui, mais du coup, c'est justement, le but, c'est de complexifier aussi les épisodes, et les personnages, pardon, et de montrer qu'en fait, sous le Chevalier Blanc, il n'est pas si simple
il
que ça, il est plus complexe. Non, c'est pas ça, c'est, non,
il
est plus complexe,
il a
des côtés sombres aussi. Alors que par contre,
coup,
je pense qu'au niveau du rythme, justement, le fait d'augmenter le rythme à fond, parce qu'on est passé sur des formats qui sont différents, sur des accessions au niveau de la diffusion et tout ça qui sont différents, qu'on se retrouve maintenant avec des trucs YouTube dans tous les sens qui doivent durer 5 minutes parce que les spectateurs ne peuvent pas avoir plus de 5 minutes d'attention. Ça, c'est un truc, à mon avis, qui, comme, enfin, ou dont, dans les années qui vont suivre, on va se dire que Rectify était et non, était au contraire un instigateur d'un retour à quelque chose de contemplatif,
mais
de plus
The
lent.
Leftovers.
Voilà, complètement.
C'est exactement ça. Mais après, je pense qu'il y a un retour aux années 90 avec, comme je disais, les remakes, donc MacGyver, ils refont l'Arc Fatal aussi, qui marche
là,
en plus. L'Arc Fatal, ça marche en plus.
Oui. Donc, bah, c'est un peu procédural.
Pour comprendre ce que c'est que les...
C'est le remake de Los Angeles Heat. Voilà. Donc.
Pour comprendre ce que c'est que les problèmes de rythme, si vous voulez un truc extrême, vous regardez, on en parlait juste avant, de la série des années 60 de Doctor Who, et vous allez comprendre ce que c'est qu'un rythme des années 60.
Oh, tu m'étonnes.
Et comme vous regardez Star Trek des années 60.
Tu m'étonnes.
Wow,
voilà, comme Mission Impossible, quoi.
Il se passe, comme Mission Impossible. Et effectivement, de notre point de vue...
Il se passe tellement rien qu'on est hypnotisé par le truc.
Ce qui est intéressant, c'est de se dire, est-ce qu'un spectateur de 2010, qui a une vingtaine d'années à peine, il va regarder un truc des années 90, il va dire, c'est chiant, c'est mou.
Non, mais je suis d'accord là-dessus, c'est que même des séries qu'on aurait, nous, adorées dans les années 90, en les revoyant maintenant, on pourrait changer d'avis. Par exemple, moi, je pense à Dawson, que j'avais adoré à l'époque. Je suis retombée sur un épisode, il y a quelques années, où je me suis dit...
C'est con.
Ils ont l'air... Je pense que je ne pourrais plus la regarder maintenant, mais je préfère rester sur cette
Alors,
sur
c'est
ce
marrant,
souvenir.
Parce que du coup, justement, moi, j'ai pas... Enfin, pour le coup, je l'ai revu il y a pas longtemps, Dawson, en intégralité. Et je me suis pas vraiment ennuyée, j'ai trouvé que c'était toujours d'actualité, que ça marchait
ouais,
toujours.
Parce que les
en
thèmes
effet,
marchent
mis
toujours.
À part,
c'est... J'ai pas dit que les thèmes, ça marchait
non,
pas.
Non, mais ce que je veux dire, c'est le côté. Ça m'a pas paru lent, ça m'a pas paru. Ça, bon. Alors après, moi je suis.
Parce que c'est bien écrit aussi. C'est parce que c'est bien écrit
posé,
aussi.
Quoi, mais...
Tu peux, oui, tu oui. peux trouver un qui est hyper lent ou hyper rapide, mais tant que c'est bien écrit, tu fais pas chier devant.
Mais d'ailleurs, il y a que le temps qui finalement fait qu'une série garde une série de qualité. Je pense qu'on a oublié, on a cité pas mal de séries, on a oublié des trucs un peu merdiques qu'on a oubliés à un moment, qui ont disparu. Est-ce qu'on cite tout le temps des années 90, il y en a un certain nombre qui sont des séries qui ont marqué et qui sont des séries de qualité, avec le défaut des époques où elles sont, mais c'est valable dans chaque décennie. Voilà, Urgence, c'est une série qui a marqué des années 90. Voilà, qui est... Je sais pas si j'arriverai à la revoir, moi, par exemple.
Ce qui marque sur le forum, ce qui revient beaucoup, c'est X-Files, qui a été cité comme culte, qui ne vieillit pas. Buffy, Charmed, Roswell, et même Dark Angel, selon série.
Roswell, ça vieillit pas.
Selon série.
Charmed, ça a quand même vieilli au moment de sa diffusion.
Et comment ils sont habillés?
C'est non, parce que Alyssa Milano ne vieillit pas.
C'est pas pire que dans Friends.
Elle a vieilli depuis Madame Messer.
À cette époque, les magazines séries et télé étaient les seules mesures pour comprendre l'engouement d'une série.
Alors, maintenant, il y a les règles.
Alors.
Oh non, putain.
Les réseaux sociaux. Continue. T'arrêtes pas.
Or, X-Files et son phénomène qui a dépassé les attentes, les magazines nous sortaient des séries événements sorties de nulle part. Oui. Roswell, Dark Angel, même Sydney Fox faisaient les couvertures des magazines.
Sydney Fox, oh la vache.
Mais n'étions-nous pas déjà dans une période où la moindre série un peu nouvelle faisait déjà l'événement, où les séries dites cultes l'étaient dès diffusion par effet médiatique?
Si,
quand Dark Angel est arrivé, on dit la série événement, James Cameron, magnifique.
Oui, mais c'est là, on voyait, on n'avait jamais vu des mecs de cinéma arriver. C'était très très rare.
Mais c'est pareil maintenant.
Enfin, je vois
pas la différence avec maintenant.
Rien n'a changé, la raison. Et il n'y a que le temps. Ce qui fait que Dark Angel, en plus, ça a dû durer 10 épisodes, je pense, comme ça, 10-12. Il y a une saison.
Je sais pas.
Mais c'est les formats médias qui ont changé.
Mais ça veut dire que c'est le temps qui a fait que Dark Angel n'est pas resté, même en 10 épisodes. Tu as des séries de 10 épisodes qui ont marqué, quand même, même en étant très courtes. Je parle. Je vais vous faire un aparté complètement idiot. Amicalement vôtre, c'est 13 épisodes.
Comme Manimal. Oui.
Comme Manimal.
Comme
Manimal. Il y a 8 épisodes.
Le magicien, Manimal.
C'est des épisodes. On a l'impression qu'il y avait 12 saisons, mais il y a 8 voilà, épisodes.
Ça a marqué. Par contre, effectivement, les effets médiatiques étaient là. Sydney Fox, faire un effet médiatique.
Bah, c'est vrai.
Sydney Fox, il faut savoir que les audiences, quand c'est diffusé encore maintenant, ça marche très très bien sur les chaînes françaises.
Il y a une nostalgie qui reste. Mais en fait.
Ça n'a rien à voir avec ces nichons.
Ah, peut-être. Non, mais l'effet culte, je pense que ça ne veut rien dire parce que.
Bah, tu ressors le série mag de n'importe quelle année, ils vont dire Roswell, la nouvelle série culte.
Non, mais bien
juste
sûr.
Parce que c'est la nouvelle série à diffuser.
Mais pour certains, Charmed, c'est culte. Pour d'autres, telle série, c'est culte. Alors que pas forcément. C'est juste qu'il y a l'effet culte, il est personnel, je pense. Nostalgique, ouais. Personnel.
Bah, il n'est pas que personnel.
Non, mais là, je parle toujours par rapport à l'époque, pas par rapport d'aujourd'hui sur l'époque.
Sur l'époque, c'était un phénomène médiatique, c'était pas culte tout de suite. Excusez-moi, je m'auto-flagelle, Dark Angel, c'est 42 épisodes et 2 saisons.
Oui, il y a eu 2 saisons, Dark Angel.
Juste, je pensais pas que c'était aussi long.
Par rapport à ta question, du coup, sincèrement, j'ai l'impression que quand même, il n'y a pas justement cet effet dont vous parliez tout à l'heure pour Netflix, qui est qu'une série est absolument inondé, crié par la critique comme étant le nouveau truc culte toutes les 3 semaines. Il n'y avait pas ça, c'était beaucoup plus quelques séries par an qui sortaient du lot.
Mais il y en avait beaucoup moins.
Parce qu'il y en avait beaucoup moins. Et du coup, l'attention qu'on leur portait en tant que spectateur, c'était vraiment beaucoup plus... moi, j'ai changé aussi, donc je veux dire, je peux... Voilà, c'est mon moi d'adolescente, mais j'avais l'impression d'être beaucoup plus attentive à ce qui se passait, mais aussi à me faire mon propre avis très lentement. Je laissais énormément de temps à une série pour me convaincre ou pas. Je veux dire, d'une série qui avait une demi-saison qui était à moitié naze à l'époque et qui finalement, à un moment donné, me plaisait, c'est un truc maintenant... J'aurais plus du tout le temps de faire ce genre de truc.
Non mais
du coup, la façon dont on abordait les séries était différente, mais le fait que le système de médiatisation et du fait de balancer une série comme étant le nouveau truc, ça c'est de la publicité, c'est du marketing. Tout le monde, c'est valable pour toutes les générations et c'est toujours pareil.
Oui, mais à l'époque c'était souvent peu le cas, que c'était vraiment une série culte.
Non, mais
maintenant, quand tu dis que c'est la nouvelle série événement, tu sais que
sérieusement, les séries événements dont j'ai entendu parler ces derniers mois et qui pour moi sont des séries que je trouve moyennes.
Non, mais même, il y a les après Lost, Flash Forward ou The Event et tout, genre les gros événements, ça fait un flop quoi.
Non, mais à l'époque,
c'est un truc marketing.
À l'époque, on vivait à l'heure française surtout, on vivait pas du tout à l'heure US. Donc déjà, il fallait que les séries arrivent sur nos 6 chaînes télé françaises, ce qui était déjà.
C'est ça, tout le monde pensait que par exemple Buffy était la série la plus regardée du monde alors que c'était sur la WB à l'époque et que personne savait que ça faisait 4 millions.
Les séries événements, on voyait que à travers les magazines français déjà. Je pense que les trucs, hormis, je sais pas s'il y avait Série Mag, il y avait très peu de magazines qui parlaient de séries. Déjà, on n'avait pas de site internet.
De ado, quoi. Série Mag, etc.
Et on n'avait pas vraiment les. Internet n'était pas forcément développé à l'époque, donc on n'avait pas tous les sites qui parlaient de séries. Donc c'était quoi? C'était Télé Loisirs, c'était ce genre de magazine télé qui nous parlait séries.
Donc ça,
on nous vendait vachement les séries par acteur.
Oui.
pas par
oui, bien sûr.
Réalisateur ou par auteur.
Oui, parce que
ou par
les couvertures ou par... de séries mag voilà. ou quoi, c'est l'acteur sexy c'est ou l'actrice sexy du moment.
C'est ça. Et,
Brandon si, est là.
J'aurais fait un petit aparté. J'aurais cité une série très peu connue, mais là, qui est pas passée sur qui est passée sur Série Club, c'est tout, que je rêve de revoir, qui doit dater des années 90, qui s'appelle Star Craving Man, avec Tony Shalhoub et Neil Patrick Harris.
Patrick Harris.
Sur un auteur type Stephen King qui n'arrive plus à écrire, et on lui envoie un jeune éditeur et tout. Et je suis étonné que ça a duré qu'une saison, ça n'a pas très bien marché, mais vu les noms d'acteurs, je suis étonné qu'on ne l'ait jamais revu.
Pareil, on va te parler de Dream On, oui. Que bah, personne ne connaît.
Qui était très ça américaine. Été,
voilà, c'est pour ça que je dis, il faut France, la culture française.
Oui, oui. Mais ça a été diffusé en France.
Grâce à Jimmy.
Mais voilà, oui, c'est mais ça. C'est ce que disait. Alors, moi, je pense que.
Mais pour ce certains, pour des Français, ça reste une série culte parce qu'ils l'ont vu sur Jimmy et parce
oui,
qu'elle a marqué leur.
Mais sauf que, à mon avis, c'est difficile à comprendre Dream On quand t'as pas la culture américaine.
Mais c'est comme Seinfeld, c'est pour ça que c'est pas passé en France.
Où était le haut de gamme à l'époque? Est-ce qu'il existait ou pas?
On s'en rendait absolument pas compte, je pense, surtout.
Je vais parler, je mange.
Bah, c'était faire, c'était avec notre vision d'aujourd'hui, on peut le dire. Avec notre vision des années
90. Quand elle est bouche pleine, on ne parlait pas.
Il
n'y
avait pas de haut de gamme parce que c'était... ça reste, on avait encore un mépris de la série télé très forte. Il n'y avait pas encore l'effet qu'aujourd'hui, où on peut faire une série prestige, ça n'existait pas. Même X-Files, qui était classé, on voyait que la réelle était un peu différente et ça, tout. Voilà. Ça restait une série télé. Si... Twin Peaks, mais comme Twin Peaks était mené par David Lynch. Et il fallait l'aura d'un David Lynch.
À la rigueur,
Lynch,
c'était peut-être les...
à Cannes et tout, pour avoir à faire quelque
pourtant,
chose.
Pourtant, la saison 2, elle a été vivement critiquée quand même.
Oui, parce qu'il est parti oui. et que voilà.
C'était mais peut-être les mini-séries qui étaient le haut de gamme à l'époque.
Oui.
Genre tout ce qu'adaptation Stephen King, V à l'époque, en téléfilm. V,
les sagas de l'été, t'as oublié.
Voilà. Oui, les sagas de l'été.
Non, non, mais qui était plus... mais il n'y avait pas le côté précis. Ça restait de la série télé, c'était encore pas très bien vu. C'est une des choses importantes qui a changé aussi par rapport aux années 2000.
Mais après, c'était vraiment un point de vue. Qu'est-ce qui était de qualité à l'époque? J'ai envie de dire, c'était notre point de vue personnel parce qu'on avait, encore une fois, pas du tout cette notion.
C'est pour ça que je demande quel était le haut de gamme à l'époque.
Bah, franchement...
Pas d'après vous, votre ressenti de l'époque, mais là maintenant.
Ouais.
Ah, bah, X-Files, moi je dirais.
Derrick, la bouche pleine, non, Romain. Quatre
sur
fois.
X-Files, sur que ma grand-mère adore. Sur le chat, il y a des débats sur la saison 10, là, sur le revival. Et beaucoup, enfin c'est assez divisé, mais beaucoup disent que la saison 10 est vraiment très faible et que ça marche plus vraiment et qu'ils ont voulu réutiliser des méthodes un peu.
Bah peut-être,
mais bien sûr.
Mais ça a fait la même chose avec Prison Break, ça a fait la même chose avec 24.
C'est qu'il est dépassé, enfin Chris Carter, il est dépassé.
Non, mais c'est en plus, c'est devenu une insulte. Hein. Moi j'entends, on m'a dit Scorpio, c'est une série des années 90. Aujourd'hui, c'est une insulte. C'est mal le.
Et en même temps, c'est marrant parce que moi, du coup, quand j'en discutais sur The Librarians, le fait que c'était une série des années 90. C'était complètement revendiqué par les mecs. Ils ont développé le truc en disant c'est un truc, low-tech, c'est un truc. Le but, c'est de s'amuser, c'est de refaire une série des années 90. C'était vraiment pour eux un point vendeur, quoi. Donc c'est rigolo parce que l'ambivalence est là, quoi.
Est-ce qu'on a encore envie aujourd'hui de revoir des séries des années 90?
Ben, tu vois, moi,
bah moi j'aimerais bien revoir Roswell, hein, franchement.
Des années 90, oui, parce qu'il y a une certaine nostalgie.
Années 90, t'as envie de penser aventure et du coup, ça te donne envie
léger,
de regarder plus léger.
Plus
voilà.
Léger peut-être.
Oui, puis
plus
moins
simple.
High-tech, on a les réponses.
Oui, c'est ça, bien sûr.
C'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas les téléphones portables et les mecs étaient bien embêtés.
T'es méchant, Mulder, il avait des beaux téléphones portables qui étaient lourds comme ça faisait des grosses briques. Des grosses briques.
Et ça tenait 3 épisodes pour qu'il tire l'antenne, pour qu'il puisse appeler.
Alors il les perdait beaucoup, Mulder. Il passait beaucoup de temps à les perdre sur les toits d'avion. Sur les toits de machin.
Non, mais par exemple, Roswell, j'ai revu le pilote il n'y a pas très longtemps, c'était pour les 20 ans, non, les 15 ans, c'était 97, donc
2017, à mon avis.
C'était l'année dernière, alors je ne sais plus. Bon, bref, on s'en fout.
C'était un an alors.
Je sais plus. Et j'ai trouvé que c'était vraiment très très bien, c'était à la limite de Angela 15 ans, version SF, quoi.
On a Obiri qui est très énervé là.
Moi, je trouve le premier épisode de Roswell n'a pas du tout vieilli, quoi. Il y a vraiment un ton qui renvoie presque à sortie Reasons Why ou à tout ce qui est in show.
Il y avait des choses qui
sont... Après, bon, c'est un
peu
plus discutable.
Le thème est universel aussi.
Non, mais c'est l'écriture. C'est-à-dire qu'une écriture...
C'est
et j'en reviens à mes séries Star Trek des années 60, il y a des épisodes qui sont regardables aujourd'hui. Alors que visuellement, ça paraît inconsommable. Mais c'est bien écrit. C'est-à-dire que tout d'un coup, on s'intéresse à l'histoire. Et je pense que Roswell était peut-être bien écrit. Il y a un certain nombre de séries qui étaient... suffisamment bien écrite, malgré les codes.
Il marcherait encore maintenant, par exemple.
Bien sûr.
Et Roswell marcherait très bien sur la CW, par exemple.
Oui, pourquoi pas.
Quoique Starcross, t'as pas du tout.
Alix a beaucoup parlé de Code Quantum, mais moi je suis un grand fan. Le problème de Code Quantum, c'est qu'il y avait une inégalité d'épisodes. C'est-à-dire qu'il y a des épisodes qui passent aujourd'hui, c'est magnifique.
On pourrait plus le faire maintenant, Code Quantum, à cause du feuilletonnant.
Bah, honnêtement, moi j'attends, j'aimerais bien qu'il fasse un remake de Code Quantum.
Mais je suis en train de l'écrire.
Alix et Stéphane sont en train
de l'écrire. Stéphane et moi,
non, mais ça veut dire que c'est une série dont le concept est génial, peut être fait quand on veut. Il y a des problèmes de production, ce qui n'est plus aussi aujourd'hui, ce qui est moins vrai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une série où elle a trouvé moche, globalement, les gens sur Once Upon a Time, ça fait je sais pas combien de temps que ça dure, tout le monde dit que c'est toujours aussi moche. Le problème de Quantum, c'est qu'il y avait des trucs où des fois les effets étaient réussis, puis des fois c'était raté vraiment. Il y avait une inégalité assez impressionnante.
Oui, parce que c'est certains budgets qui sont gardés pour certains
épisodes. Et un manque de cohésion dans l'écriture. C'est-à-dire que maintenant, on pouvait avoir des épisodes mieux écrits que d'autres, mais il y a des choses magnifiques.
Il y a Stéphane sur le chat qui dit que... Il apprécie Timeless, notamment via le spectre des années 90.
Oui, c'est vrai, je suis d'accord avec lui.
Parce que c'est pas boursouflé par des choses un peu...
Non, Timeless, c'est simple, comme je disais, c'est une aventure, t'as pas de complexité plus que le coup du je sais plus comment il s'appelle, Rittenhouse.
Oui, mais c'est comme le caméléon, tu vois, t'avais le côté très loin.
Il est révélé dès le début, Rittenhouse, c'est rapidement, t'es rapidement, enfin voilà, non, ça marche complètement, parce que c'est une aventure, et t'es
plus
dedans.
Ouais, c'est un peu chiant.
Et il dit vive Code Quantum, Alice.
Est-ce que la CW avec ses séries de super-héros fait pas des séries quand même un peu stylées 90? On peut se poser la question. Mais avec toutes les qualités que ça a.
Bah, alors, par exemple, sans les effets spéciaux, Legend of Tomorrow, c'est ça pour moi. Parce que c'est complètement...
Alors on ne remerciera jamais assez la WB de nous avoir fourni une pelletée de séries. La cible était vraiment bien teen à l'époque et très girl power. Entre Buffy, Charm, Dark Angel... Et dans les autres chaînes, Dana Scully, Dr. Quinn, Profiler.
Mais qui s'appelait vraiment Dr. Quinn.
L'héroïne de Profiler, c'était
Samantha Waters.
Wow. Bien joué.
Est-ce qu'on n'était pas déjà dans une transformation lente des séries vers une standardisation pour un public accro? C'est-à-dire vraiment, est-ce que les séries, nous, de notre époque, étaient plus des teen shows que des séries pour adultes?
Je pense que c'est la découverte. Découverte du public adolescent. C'est-à-dire qu'avant, je pense que les années 80, ce n'est pas les ados qui sont devant la télé.
Mais est-ce que X-Files, c'est une série pour ados?
Non, justement, parce que... La petite histoire, c'est que pourquoi je n'aime pas Buffy? Parce que j'étais jaloux de Buffy, parce que c'est arrivé un peu après X-Files, quand X-Files commençait déjà un peu à perdre un peu de son phénomène. Et Buffy est arrivé, c'était plus fun, plus jeune. Et donc, les jeunes ont commencé à dire, bah là, ça, c'est de la série. Et moi, voilà,
j'étais déjà vieux. Mais Mulder, il y avait 30 balais, c'est normal, les jeunes de Mulder.
Mais en même temps, de ce que tu dis, il y a eu... C'est l'époque où il y a beaucoup de teen show, mais c'est surtout l'époque où les chaînes diffusaient beaucoup de teen show parce qu'ils voulaient que les adolescents...
Et que ça marchait, parce que maintenant, ça ne marche plus.
Mais ils auraient pu diffuser plein d'autres séries aux États-Unis qu'on ne connaît pas du tout et qu'on ne connaîtra pas pour un autre public. Mais voilà, c'est les années teen show, entre guillemets, parce que les chaînes voulaient cette cible-là.
Il y a un côté, le cinéma le côté, le cinéma a explosé dans les années 60 où les ados ont commencé à aller au cinéma dans les années 60-70. Donc le public adolescent au cinéma, il a explosé, même d'ailleurs plus 70-80. Le phénomène du slasher, des trucs comme ça, qui sont très très ados, c'est ça. Oui. Il a mis 10 ans de plus à venir à la télévision. On a encore un public télévisuel banal, classique, télévisuel, très, plus âgé. Mais en tout cas, c'était l'arrivée des ados devant la télé, qui en sont repartis quelque part. Hein.
Alors, les gens qui mettent Buffy et Charm sur le même plan, ça vous choque?
Oui, c'est très choquant quand même. Ah, si.
Ça dépend.
S'ils me disent je mets Charm et Buffy sur le même plan parce que c'est deux séries que j'ai énormément aimées, que j'ai vraiment suivies et tout.
Après, si ils
mettent Charm et Buffy sur le même plan en disant l'écriture de Charm est aussi intéressante et aussi fine et aussi subtile et drôle que Buffy, non.
Mais en plus, on le voit aujourd'hui. Enfin, il y a eu des études universitaires faites sur Buffy. Il y a plein de trucs qui font que Buffy reste encore.
Il y a quand même le côté, faut pas oublier que dénigrer quelqu'un qui dit j'aime Charmed et j'ai passé mon temps de voir.
Non, c'est juste parce que c'est drôle.
Je veux dire, ça n'a aucun sens en réalité.
Les deux séries
ont fait partie de la trilogie du samedi. Ouais. Voilà.
Tout comme X-Files, évidemment.
C'est un peu comme Ma Famille d'abord. C'est culte ou quoi en France alors que
non,
c'est pas
Ma Famille d'abord, c'est pas culte.
Ouais, en France,
c'est très connu, mais.
Je peux te le dire. Alors, pour le diffuser actuellement.
Non, mais.
Je suis d'accord avec Romain.
Ma Famille d'abord, en parlant de comédie ou de série perdre. Ma Famille d'abord, ça arrive toujours dans le top.
Mais Ma Famille d'abord, ça fait des audiences de merde. Tu sais pas à quel point
on parle pas de maintenant et avant.
Code Docteur,
ça veut pas dire que c'est culte.
Non, c'est pas moi qui dis que c'est culte. Il y en a qui trouvent que c'est culte. C'est comme un peu Charmed ou Buffy.
Alors moi, j'ai jamais entendu que c'était culte. J'ai toujours Une d'enfer, Malcolm et Notre belle famille, mais jamais.
C'est pas le même. La même époque.
Laurent, il y a quelqu'un qui te contredit sur le chat, qui dit que Joey a un téléphone dans la saison 5 et Dawson aussi.
Ah oui, ils sont à la fac, ils sont obligés.
Saison 5, ah merde. D'accord, ok.
Oui, c'était la fin.
Enfin, il y en a que deux sur les 5, hein. Les autres, c'est des pauvres, j'entends. Enfin,
bon, pour terminer, quelle série des années 90 vous voulez voir revenir en remake?
Moi, Code Quantum, j'ai envie qu'il refasse Code Quantum avec un bon showrunner. Alors, par contre, il va falloir trouver une paire d'acteurs aussi iconiques que les deux qu'on avait. Ouais. Là, ça va être tendu.
C'est
là.
Marrant parce que tu vois, tu dis ça et voilà, à la fois, j'ai envie de dire, mais si c'est bien. Mais si... Non,
parce que si
pas
c'est
ça,
nul, c'est dommage.
Attends, c'était quand même showrunné par un putain de réac quand même. Belisario, c'est un mec qui est persuadé que c'est Oswald qui a tué Kennedy. C'était un mec qui était à fond dans la religion. C'est pas.
T'inquiète, ça sera Berlanti derrière Code Quantum.
Non, mais oui, je trouve que c'est une série qui gagnerait à avoir effectivement une écriture cohérente tout le long des saisons, dans les mêmes thématiques. Mais voilà, je pense que c'est vraiment une série qui mérite quelque part d'être revisitée. Alors évidemment, et que ils arriveront jamais à avoir Bakula et Dean Stockwell parce que. La chimie entre les deux acteurs était très bonne, mais en tout cas, il faudra retrouver quelque chose comme ça. Moi, c'est une série que j'aimerais bien voir remake.
Ouais, je suis d'accord. Ouais.
Moi, c'est marrant parce que j'aurais presque plus envie qu'ils prennent une série vraiment nulle et qu'ils décident d'en faire une espèce de parodie qui...
Comme Charmed.
Non, j'ai pas d'idée spécifiquement, mais je me dis, tu vois, plutôt que d'essayer de refaire des Starsky Hutch ou ce genre de truc, mais vraiment sur un mode justement on rigole de la différence qu'il y a entre les années 90 et maintenant, le fait de faire un remake pour faire un truc qui est dans la continuité de ce qui a été fait dans les années 90, pour moi ça pas vrai. Enfin
Stranger Things,
voilà, il y a pas grand chose qui m'intéresse quoi.
80,
Stranger Things, c'est 80.
Ouais. Moi j'aimerais
vas-y.
Moi j'aimerais bien que aucune série soit qu'il y ait un remake, mais par contre j'aimerais bien voir revenir des cases, donc comme par exemple la trilogie du samedi. Ce serait super qu'une chaîne puisse faire revivre la trilogie du samedi,
avec ou même une série de l'époque.
Non, avec des nouvelles séries, tu vois, juste la case.
Non, bah,
c'est
compliqué.
Je suis d'accord, le côté enchaîner trois épisodes d'une même série, alors que le fait de programmer des groupes de séries et de faire découvrir et de faire tourner les séries et du coup de permettre de faire découvrir une nouvelle série au milieu de deux autres que les gens suivent déjà et tout, c'était tellement un système merveilleux quoi.
Voilà, bah j'aimerais bien que c'est voilà, à bon entendeur,
complètement d'accord avec
toi. Et même des cases du style bah qu'il y a des deux A comme il y a l'époque,
c'est vrai qu'il n'y a plus de cases jeunesse à part très très tôt.
C'est Disney tout,
il y a du dessin
animé, Disney maintient toutes les séries ados, c'est Disney qui les tient. Girls Meet World qui s'est arrêté.
Il y a des gens qui disent à Romain que bah, Ma Famille D'Abord ça reste culte, et sur Twitter plein de gens pensent pareil. Ils trouvent que c'est
bon. J'avais raison. Mmh. Alors que bon, comparé à d'autres comédies,
je sais pas,
très
mais
drôle,
parce que c'est pas la première
sitcom. Non, c'était, je crois que la dernière sitcom est diffusée dans la case de 20h10 sur M6.
Oui, peut-être, mais c'est pas la première sitcom afro-américaine. Il y en a d'autres. Hein.
Non, bah, Cosby Show, Prince de Bel Air.
Ouais, non, mais je me demande s'il y en a eu entre les deux presque.
Je sais pas, peut-être. Mais bon, ça reste culte pour beaucoup. Le pourtant, c'est pas vraiment une très bonne comédie, quoi. C'est ce que je voulais dire.
Ce qu'on cite comme série ici, c'est Sliders, notamment.
Oui.
Et puis Buffy, Dark Angel.
Faire un remake, non, Buffy.
Ah,
Sliders.
Pas d'accord. Sliders, c'est pas mieux.
Poltergeist, Les Aventuriers du Surnaturel. Pardon.
Il y a moyen de faire
au-delà du réel.
Caribe Offshore aussi.
Les Contes de la Crypte.
Vous allez loin là quand même.
Oui, Caribe Offshore, Hulk Hogan, magnifique.
Qui vont revenir d'ailleurs.
Qui était un peu un Tardis. Le vaisseau de Caribe Offshore est un Tardis.
Encore plus sexuel qu'avant.
On va bien voir le.
Il était tout petit, mais tu rentrais, c'était immense.
On enlève le haut, le bas, là.
Alors merci.